Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, on vous accompagne ce dimanche matin, lendemain de la défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud. On va en reparler tout à l'heure à 11h30. La tournée d'automne est-elle déjà ratée pour le 15 de France? Dans un instant, on va parler Formule 1 aussi. Vous savez qu'il y a le Grand Prix du Brésil à 18h. Tiens, grosse punchline, on vient de l'avoir tombée de Max Verstappen qui est passé complètement à côté de sa qualif. Hier, il partira 16e. Il a dit ceci: avec ce genre de performance, il faut oublier le titre de champion du monde. A-t-il dit adieu au titre, le Néerlandais? On va en parler dans quelques instants. Jean-Luc Roy va nous rejoindre ce week-end sur RMC. On vous offre vos places pour France-Ukraine, un match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est ce jeudi 13 novembre à 20h45 au Parc. Pour remporter vos places pour France-Ukraine, envoyez France au 7-32-16. France au 7-32-16. Mais d'abord, avez-vous encore peur du champion d'Europe de football?
RMC, le ring des GG.
C'est terminé, c'est fini, Paris sur le toit de l'Europe. 23-0, c'est la piquette, Jack. C'est fini au Parc des Princes, il n'y aura pas de temps additionnel.
Bah voilà.
7-0 ouais, pour le suivi. Paris Saint-Germain. 10-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
Gonçalo Ramos, ça frappe. 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. C'est terminé! Marseille s'impose 1-0! C'était beaucoup trop loin ce 27 novembre 2011 quand Marseille avait battu le PSG 3-0!
Je n'ai pas peur, moi. Non, moi non plus, crois-le bien.
Le joli point des Lorientais, 1-0! C'était pas un grand Paris Saint-Germain, 3ème nul donc du mois d'octobre pour les Parisiens.
Je n'ai plus peur maintenant.
La défaite du PSG! La première défaite en Ligue des Champions cette saison des Parisiens! 2-1! Face au Bayern.
Je commence à vous connaître et votre petit jeu ne m'impressionne plus.
Et la semaine a été difficile pour le PSG. C'est pas le cas souvent, hein, mais cette semaine en Ligue des Champions, il y a eu cette défaite contre le Bayern. Et Achraf Hakimi sur la touche jusqu'en janvier, a priori blessé. Dembélé et Nuno Mendes sont également sur le flanc. Désiré Doué toujours absent. L'infirmerie commence à être plus impressionnante peut-être que le 11 titulaire au PSG qui est accroché cette saison en Ligue 1. On le disait tout à l'heure, une victoire arrachée à la 94e contre Nice le week-end dernier. Christophe s'en souvient encore. Pas de très bon week-end pour Christophe en ce moment. Des nuls contre Lorient, Lille, Strasbourg et une défaite à Marseille. Les GG, je vous pose la question ce matin. Le PSG fait-il moins peur que la saison passée? J'ai eu deux noms francs, Marc et Sarah. J'ai eu plutôt des oui, Christophe et Philippe Saint-André. Philippe me disait fatalement oui, vu la dynamique.
Oui, franc et massif.
Oui, franc et massif. Ah, oui. Ah, j'aime bien quand t'es comme ça, parce que souvent tu joues à ni oui ni non avec moi. Et quand t'arrives avec des idées claires comme ça.
Pendant l'émission.
Ouais, bah, c'est très bien. Et bien, figure-toi que le peuple est avec toi, Christophe. 65%, vous dites oui, le PSG fait moins peur que la saison passée sur le compte XDGG. On vous attend au 32-16 et envoyez vos WhatsApp au 06 12 424 424. Édouard G, notre correspondant à Lyon, reçoit le PSG aujourd'hui entre Saône et Rhône. Salut Édouard.
Bonjour. Salut Sarah, salut Christophe.
Donc c'est toi seul qui reçois le PSG. Ah bah attends, hein.
Exactement.
Depuis que Jean-Michel Aulas n'est plus le président, le duc c'est Édouard.
Chaque fois avant le match ou pas?
Bien sûr, le duc.
Marquis s'il vous plaît.
Le marquis. Édouard, est-ce que avec le PSG que l'on voit actuellement, fait que les Lyonnais ont plus d'ambition peut-être ce soir au moment de recevoir?
Alors vous allez l'entendre après les conférences de presse qu'on a eues hier. Alors il y a forcément une première écoute, un premier degré à cette question que l'on a posée directement, notamment à Paulo Fonseca, et on sent qu'il a préparé sa réponse.
Nous n'avons pas de bon moment pour jouer contre PSG.
Et c'est au tour ensuite de Clinton Mata de jouer à la formule toute faite, un bateau, langue de bois, style le PSG, ça reste la meilleure équipe de Ligue 1. Mais bon, petit à petit, dans le déroulé de la conférence de presse, on sent une forme d'ambition qui pointe son nez. Témoin, sans qu'on le voie venir, car dans le flot des matchs, finalement, j'avais même plus cette série en tête. Clinton Mata rappelle opportunément.
Face au top 5, top 6, ça nous a toujours réussi, donc on est plutôt pas trop mal là-dessus.
Et oui, quand on regarde de près, Lens puis Lille, qui cède à, devant l'OL à la maison, l'OM au Groupama Stadium, puis Strasbourg récemment, sera quatre des candidats à la Ligue des Champions comme Lyon, en attendant Monaco début janvier, donc le PSG ce soir. Vous ajoutez pour les Lyonnais cette énergie, on va dire, du survivant qui habite encore le vestiaire. En tous les cas, c'est Clinton Mata qui le dit toujours hier en conférence de presse.
Beaucoup de gens, des fois, oublient, on vient très loin. Je pense que en préparation, tout le monde nous voyait en deuxième division. Puis après, tout le monde nous voyait aussi, peut-être même pas dans le top 6. Et aujourd'hui, on y est. On est très content. On a toujours dit que voilà, notre objectif, c'était d'essayer de faire mieux que l'année dernière.
Alors, mieux que l'année dernière au classement, c'est mieux que sixième place, mais aussi face au PSG, avec une défaite à la maison, la cinquième sur les six derniers déplacements parisiens en Groupama Stadium, où l'OL n'a plus accroché à son tableau de chasse le PSG depuis le 3 février 2019. Si tout cela, madame, messieurs, ça vous dessine pas une ambition lyonnaise, eh ben, je n'y connais plus rien.
Oui, effectivement, on sent, Véligrane, qu'il y a un peu d'ambition entre Rhône et Saône avant d'accueillir le Paris Saint-Germain. Merci, Edouard. Match ce soir, évidemment, à suivre avec toi. Et tu as AMC et Aurélien Tiersin au commentaire à 20h45. Marc, toi tu dis non, le PSG ne fait pas moins peur que la saison passée, et en plus c'est un non franc et massif.
Oui, franc et massif.
Pourquoi ?
Pour une raison très simple, c'est que mentalement, psychologiquement et en influence, le PSG a changé de catégorie par rapport à ce qu'il était il y a un an.
C'est-à-dire
que pendant longtemps, jusqu'à ce début d'année 2025, on était sur un PSG qui pouvait être flamboyant, mais qui avait des pieds d'argile, qui était fragile, et tout pouvait s'effondrer à n'importe quelle minute du match, et basculer dans la mauvaise direction. On va pas refaire l'historique, mais il y a quand même beaucoup de moments où on pensait que le PSG allait éclabousser et sombrer lamentablement dans les minutes qui suivaient. Et là, pour moi, je trouve que même s'il y a des moments où ils sont accrochés, il y a quand même en eux cette force et cette certitude qu'ils vont faire ce qu'il faut au moment où il le faudra par rapport à la compétition du championnat ou par rapport à la Ligue des Champions.
C'est les Springboks en fait. Ils dégagent un truc.
En fait, ils sont rentrés dans une autre catégorie. Ils font partie des grands, des très grands. Et quand on est grand et très grand, que ce soit le Real, que ce soit Barcelone, que ce soit d'autres grands clubs européens comme le Bayern de Munich, il y a toujours un moment où cette force, cette histoire et cet ADN ressort. Et la grande force du PSG d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont su construire cet ADN ou le mettre en place avec la saison précédente.
Et malgré ça, les blessés et tout ça, toi, tu sens ce truc-là.
Les blessés, c'est, j'ai envie de dire quelque part, ça n'est pas très grave. Parce qu'ils ont en eux... Ils ont cet ADN, ils ont cette force.
La force, c'est parce que les mecs qui étaient blessés, ils sont plus sur le terrain aujourd'hui.
Et cette force mentale ça qui va leur permettre...
T'es avec Marc, normalement.
Ah, oui.
Oui, d'abord, t'es avec moi.
C'est ce que tu dis.
Moi, je suis pas du tout qui va les sauver. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, j'ai envie de dire pour Luis Enrique et pour le PSG, c'est presque bien.
Pourquoi ? Pourquoi tu lis comme ça en plus ?
C'est presque bien. Tout simplement parce que ça permet de faire progresser des joueurs qui n'auraient peut-être pas eu le temps de jeu qu'ils vont avoir aujourd'hui, en ce moment, dans cette période. Et en même temps, tout en étant blessé, ça va permettre aux joueurs blessés de se régénérer et d'arriver dans la période cruciale du début d'année prochaine qui leur permettra d'être opérationnels en Europe et sur le championnat.
Bah moi, en tant que coach, je suis complètement en désaccord avec toi. Alors pourquoi ? Parce que moi, pour moi, la Coupe du Monde des clubs... A tué le PSG. Tu as besoin dans un sport collectif de te régénérer physiquement et mentalement, ce que n'a pas pu pratiquement faire cet effectif. Et donc pour Luis Enrique, qui a été exceptionnel la saison dernière dans la gestion de ses joueurs, là il ne peut pas le faire parce qu'il a des blessés en permanence. Alors oui, il va donner du temps de jeu à des très très jeunes joueurs, mais par contre il est obligé de tirer sur la gueule de certains joueurs parce qu'il n'a pas de solution.
Alors, sont tous blessés, ces joueurs sur lesquels il veut tirer sur la gueule. Donc c'est pas plus mal.
Mais tu sais jamais comment tu vas les récupérer.
C'est pas plus mal, mais c'est pour cela qu'ils font moins peur actuellement. C'est-à-dire que Marseille, Lyon, ils jouent le PSG, ils regardent l'équipe, ils ont 5 ou 6 des meilleurs joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match. Ils disent, purée, il y a peut-être une opportunité. Marseille, c'est la première fois qu'ils gagnent le PSG. Ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné le PSG ? Combien d'années ?
Eh oui, depuis 2011. En Ligue 1.
Donc, alors après, oui, je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils seront présents.
Bah, finalement, t'es d'accord.
Non, ils seront présents. Ils seront présents à la fin quand il aura récupéré son effectif. Mais pour Luis Enrique, c'est une saison galère. Et quand ça commence mal, c'est très compliqué parce que tu es obligé de tirer sur la gueule de certains. Et donc, tu vas blesser d'autres joueurs en attente que ces tauliers reviennent dans le vestiaire.
Donc, toi, si t'es coach de l'OM, là,
L'OM,
rappelle.
Alors, n'en déplaise aux compagnons d'entraînement de Marc Madio, puisqu'on sait que Luis Enrique et Marc Madio, désormais, sont des complices et qu'ils se téléphonent toutes les semaines.
Mais non.
Je suis d'accord avec Philippe. Quand tu es moins fort, que tu as pas toutes tes stars à disposition et que tes résultats sont quand même un peu moins flamboyants, notamment en championnat, qu'ils l'étaient l'année dernière, eh bien, ça incite l'adversaire à plus d'ambition. Est-ce que tu crois que le Bayern, qui est entré tambour battant dans le match en Ligue des Champions cette semaine, aurait fait la même chose face au PSG du mois d'avril-mai, lorsque Paris marchait sur tout le monde et était hyper dominant? Non, mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui...
Oui, sauf que le truc, c'est que c'est pas au mois de novembre que ça
commence. Non, mais toi, parce que t'es convaincu, en fait, qu'ils vont revenir au niveau d'avant.
Mais moi, je suis persuadé qu'ils vont revenir au niveau d'avant.
Marc n'a pas vu la question. La question, le PSG fait-il moins peur que l'an passé?
Le PSG est rentré dans la tête des autres équipes.
Mais l'an passé, à la même époque, je vous assure que le PSG faisait pas peur du tout sur le plan européen. On se moquait d'eux.
Mais en Ligue 1, oui.
On parle de Ligue 1.
Mais la Ligue 1, il la gagne depuis combien d'années? Aujourd'hui, oui, l'écart s'est juste réduit parce qu'il n'y a pas les meilleurs joueurs. Ouais. Mais ils vont gérer sur le temps.
On ne te parle pas du mois de mai ou du mois de juin prochain. On te parle là. Vous comprenez pas ou quoi? Vous savez pas lire le français.
Ils font pas moins peur. Non, c'est juste que les équipes qui les jouent se disent peut-être qu'il y a une opportunité. Avant, ils ne le jouaient pas.
Donc ils ont moins peur. Donc si tu sens qu'il y a une opportunité, l'autre équipe fait moins peur.
Fonce, oublie que tu as une chance, vas-y, sur un coup de ballon.
C'est pas qu'ils font moins peur, c'est qu'ils voient qu'il y a une petite opportunité de battre ou de faire un nul face au PSG parce qu'il n'y a pas la même équipe que le PSG.
Sarah, t'es le manager ou l'entraîneur de Lyon.
J'essaie de sauver les meubles en attendant que les meilleurs PSG,
tu dis les gars,
est-ce que
Lyon cet après-midi va entrer sur le terrain en tremblant comme il le faisait il y a un an, il y a deux ans, trois ans? Est-ce qu'ils vont pas se dire, comme le disait Edouard tout à l'heure,
mais je joue sur les mots, je pense qu'il y a peut-être une opportunité ce soir, mais ils font pas moins peur, ils se méfient tout autant du PSG.
En fait, Sarah et Marc sont convaincus que c'est ponctuel, en fait.
C'est totalement isolé.
Marc, il y a aussi la personnalité de Luis Enrique et son discours, peut-être aussi, qui fait que tu trouves que cette équipe a pas l'air de tanguer.
On sent une sérénité. Il y a des difficultés, il y a des blessés, il y a du temps de jeu délicat pour certains joueurs, mais on sent quand même une force et une tranquillité, une sérénité qui rejaillit sur les joueurs qui vont être sur le terrain. Et quelque part, l'attitude et les paroles prononcées par les joueurs et l'encadrement du PSG aujourd'hui rassurent et mettent. Il y a toujours ce doute chez l'adversaire et le doute il est profitable au PSG d'aujourd'hui, même si la liste des joueurs sur le terrain n'est pas la même.
Je vous rappelle qu'ils sont allés gagner au Barça alors qu'ils n'avaient pas la même équipe. Ils ont été plantés 7 buts au Bayern.
Sur le discours, c'est intéressant parce que la petite musique qui monte aussi depuis quelques temps, c'est pourquoi Paris n'a pas plus recruté lors du dernier mercato. Il a encore été interrogé, en plus à la lumière des blessés évidemment. Nous journalistes, on remet ça sur la table. Est-ce qu'il ne faudrait pas par exemple recruter au mercato d'hiver? Écoutez les mots de Luis Enrique hier.
J'aime voir la réponse des joueurs après un match comme ça et tu peux voir quand tu arrives dans le vestiaire quel est le sentiment. Si j'analyse comment ils se comportent pendant cette saison après les matchs, comment ils ont fait l'entraînement, et je peux être très, très, très tranquille, je suis très tranquille. Pour nous demain, ce sera une opportunité encore de montrer que nous sommes une vraie équipe. On va jouer contre Olympique de Lyon, qu'il se joue très bien. Et j'aime de voir mon équipe dans cet stade, incroyable stade, montrer notre personnalité. J'aime et attends avec beaucoup d'ambition ce match.
Voilà, Lucien Riquet sur le mercato, je vous le dis quand même ce qu'il a dit, c'est une possibilité mais pas une urgence ou un sujet de préoccupation, hein, voilà, au-delà de l'ambition qu'il a pour cette rencontre. Christophe, tu voulais dire
non, je voulais faire une blague, c'était Lucien Riquet répond aux questions de travers, il sait pas lire les questions, c'est un peu comme
Marc. Mais pas, de toute façon, Marc, t'es pote avec Lucien Riquet, donc
je suis pas pote, je constate, je regarde,
franchement, ils font moins peur que la saison dernière.
Mais Philippe, quand Luis Enrique, donc il dit le mercato, c'est pas, il y a pas d'urgence, c'est pas un sujet de préoccupation malgré les blessés. Tu l'entends ça dans la gestion d'effectifs ou tu te dis il faudrait quand même qu'ils allument quelques alertes rouges, on va dire.
Non mais là-dessus je le trouve brillant.
On est d'accord.
Non, là-dessus je le trouve brillant parce que il dit j'ai confiance à mon effectif, j'ai confiance aux jeunes joueurs, et donc le message est bon, mais par contre peut-être qu'il demande à celui qui s'occupe du recrutement, maintenant tu vas te bouger et j'ai besoin de 3 ou 4 joueurs, t'as un message avec les médias et avec ton effectif, et t'as un autre message aussi, et je pense qu'il a quand même besoin, avec les problèmes de blessures qu'il a actuellement, de 1 ou 2 joueurs supplémentaires dans son effectif, surtout s'ils veulent jouer sur tous les tableaux.
Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, hein, les journalistes de RMC qui suivent le Paris Saint-Germain, à aucun moment ils ont fait état dans les discours internes de il faut recruter, il y a une panique. Non mais ça, on sent quand même une sérénité dans cette équipe. Ils veulent garder les joueurs de leur passé.
Il l'a gagné au fil des années parce qu'il en a pris plein la figure. Luis Enrique, on comprenait pas. On comprenait pas comment il jouait, on comprenait pas comment il voulait faire jouer l'équipe. Aujourd'hui, malgré un petit temps où oui, les matchs sont accrochés, oui, tu sens que c'est quand même plus dur. Il renvoie une telle sérénité, je pense.
Ouais, mais attendez, on va parler avec Christophe cette semaine. La première mi-temps contre le Bayern, Christophe, s'il n'y a pas carton rouge pour Luis Diaz, la performance bavaroise.
Là, ils peuvent prendre très cher en deuxième mi-temps quand même.
Mais on est d'accord.
Et le Bayern, je pense, n'avait pas peur du PSG en entrant sur la pelouse.
Mais non,
pas du tout peur du PSG.
Mais c'est pas une question d'avoir peur ou pas. Bah, c'est de dire qu'il y a une opportunité.
Peur ou pas peur, c'est la question. Non, donc excuse-moi d'y répondre.
Sarah, juste. Pour t'expliquer, quand t'es entraîneur, moi, entraîneur de rugby, tu joues ou l'Afrique du Sud ou le Stade Toulousain.
Oui,
si 10 de leurs meilleurs joueurs sont blessés, eh ben, t'as plus confiance que s'ils sont sur le terrain.
Ouais, mais c'est pas une question de peur.
Prenez coach Saint-André pour le discours d'avant-match à Lyon ce soir.
La mauvaise foi.
Lyon, Paris Saint-Germain.
Sur la mauvaise foi.
À 20h45 à suivre sur RMC en direct, évidemment. Tiens, le résultat du vote sur le compte X des GG du sport, le PSG fait-il moins peur que la saison passée, vous dites oui à 64%, donc vous avez perdu un petit point. Donc Marc et Sarah, vous avez été bons.
Sinon, un jour, Georges Quirino et Max Abolin, les têtes pensantes des grandes gueules du sport, vous pensez qu'on pourra parler de Lens une fois dans l'émission
Lens, on l'a dit, est co-leader de Ligue 1 après sa victoire.
Deuxième de Ligue 1, quand
mais
même.
Mais quel populiste, ce Christophe Cessieux. En fait, il ne veut pas faire cette émission. Voilà. Vous savez, ce fait Christophe Cessieux, il va sur X, il regarde ce que disent les auditeurs.
Il ne s'intéresse qu'à rien d'autre. Il n'y a aucun autre club dans le championnat que Paris et Marseille pour ces deux-là. Pour ces deux-là, c'est terrible.
Il y a Nice. Quand même.
Mais oui, parlons de Nice, de cette équipe qui flambe au niveau européen.
Franchement, de Nice, c'est peut-être mieux qu'on en parle.
Et écoutez Christophe sur ses podcasts rugby, il parle tout le temps de Montauban, de Perpignan, de Castres.
Oui, on en parle. Exactement. On parle
et de
tout
Clermont.
Bien sûr.
Quelle mauvaise foi qui te caractérise si bien, qui te définit. Allez, dans quelques instants, on va parler Formule 1 parce qu'on a un Grand Prix à 18h au Brésil qui va être peut-être décisif dans la course au titre. Verstappen a peut-être déjà jeté l'éponge. Il partira très loin sur la grille. On va en parler avec Jean-Luc Roy, tout de suite.
Marc n'a pas lu la question.
RMC jusqu'à midi.
La question, le PSG fait-il moins peur que l'an passé? Oui, actuellement.
Les grandes gueules du sport.
Et allez l'OM.
Georges Quirino.
Philippe Saint-André, c'est pas une intelligence artificielle, hein. C'est bien ce qui a été dit ce matin.
Hein. Il va être accueilli comme un héros à Marignane quand il va
aller. Ah oui, y a 2 allées l'OM qui sont tombées déjà depuis 9h ce matin. Et parfois à des moments improbables. Hein. On sait pas. Ça peut retomber peut-être dans le débat F1 dans quelques instants. Ouais. Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Marc Madiot sont là dans un instant. Les GG remontent le temps spécial Formule 1 au Brésil, Grand Prix d'Interlagos à 18h sur RMC. Mais d'abord, je vous rappelle qu'en fin d'émission, on pouvait pouvez participer au jeu du sport avec vos GG, remporter votre maillot rugby sport d'époque fabriqué en France, le maillot France 1958 qui pèse une tonne selon Philippe, celui de la première tournée victorieuse des Bleus en Afrique du Sud. Pour remporter votre maillot sport d'époque, il est magnifique, hein, en vrai, franchement, le design est incroyable. Appelez le 32-16, touche 4, ou envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Je vous le disais, la saison de Formule 1, en tout cas, le titre de pilote. Est-ce que tout va se jouer à São Paulo ce soir ?
RMC, la punchline GG.
C'est la cata pour Verstappen. Alors qu'il avait besoin d'être parfait pour rester dans la course au titre, le Néerlandais partira en fond de grille. C'est très rare pour lui, on va en parler tout à l'heure. 16e, alors que le leader du championnat, Lando Norris, a signé la pole et gagné la course sprint hier. Le quadruple champion du monde en titre. Verstappen a 39 points de retard sur Norris au classement des pilotes. Il restera 3 grands prix et une course sprint après Interlagos. Donc 83 points en jeu, 1-0 pointé aujourd'hui. Et ça sentirait franchement le roussi pour Verstappen. La punchline, elle est énorme de Verstappen chez nos confrères de Sky Sports hier. Je peux oublier le titre maintenant. De là où nous partons, ça ne va pas marcher avec ce genre de performance en qualification. Oubliez le titre. Les GG, je vous pose la question. Verstappen a-t-il déjà dit adieu au titre ? Sarah ?
Bah, ça sent pas bon, ouais, non. Non, je pense que c'est fini.
Marc ?
Un petit non.
Christophe ?
Oui, oui. Fini.
Philippe ?
Non.
L'arrivée d'un roi en studio, Jean-Luc Roy nous rejoint. Salut Jean-Luc.
Quelle équipe. Bonjour madame, bonjour messieurs.
Notre voix de la plaisir. Formule 1 sur RMC. Évidemment, tu vas commenter la course tout à l'heure, départ à 18h à Interlagos. Tiens, je te pose la question. Verstappen a-t-il dit adieu au titre, Jean-Luc ?
Non, bien sûr.
Bon, déjà, non, mais là, il va nous faire un faux suspense, je le connais.
C'est quoi, c'est de la com alors ce que nous fait Verstappen ?
Alors déjà, il faut attendre le Grand Prix.
Oh, ah, oui,
tout le monde, non, sincèrement, Christophe. Alors, les conditions ne sont pas les mêmes, il l'a dit lui-même. L'an dernier, il part 17e quand même. Il remporte le Grand Prix, alors...
Oui, t'as raison, précise qu'il était quand même en tête du championnat. Il n'avait pas tout à fait la même pression que là.
Non, ah bah si, sa voiture ne marchait plus depuis la mi-saison.
Oui, mais il a pris tellement d'avance avant.
Oui, non mais... Là, on parlait du fait que, oui ou non, il puisse gagner le Grand Prix du Brésil en partant d'où il part. Oui, il peut le gagner.
Oui, il peut gagner. Alors le Grand Prix, oui, mais il faut décider. Oui, il a 39 points de retard. Non, mais je pense que le titre, il a dit adieu au titre déjà lors du dernier Grand Prix.
Alors écoute, évidemment qu'il aurait fallu qu'il fasse le carton plein tout le temps et qu'il devance tout le temps les deux McLaren, c'est une évidence absolue pour grignoter. De toute façon, la moyenne, elle est simple. Hein. Il reste 4 Grands Prix à aujourd'hui, avec celui d'aujourd'hui. Il a 39 points de retard. Il faut qu'il remonte
à peu près 7 points par week-end.
Ouais. 10 points par week-end, c'est la moyenne. C'est idiot de dire ça comme ça. Parce que
donc il faut qu'il gagne et que l'autre termine 3e ou 4e à la
voilà, on est d'accord, mais comme tu le sais, les mathématiques et le sport, et particulièrement le sport mécanique, parce que là, je rappelle quand même une chose très importante.
Jésus, franchement.
À personne. Non mais attends, c'est qu'il y a eu quand même une casse mécanique qui a frappé Norris, vous le savez très bien, lors du Grand Prix. On est en fin de saison, les mécaniques sont comme ça.
Les moteurs sont fatigués.
Les moteurs, les boîtes de vitesse, tout. Donc il peut y avoir, alors elle peut frapper Verstappen aussi naturellement, mais je suis en train d'expliquer que juste, si jamais Norris casse en course, marque 0, et que Verstappen remonte et monte sur le podium par exemple, pourquoi pas, il va prendre 15 points, il refait quasi la moitié de son retard.
Exactement.
Non mais, je veux dire que ce sont des sports mécaniques, et Verstappen est le meilleur pilote de la grille, tout le monde est d'accord. Les pilotes, tous les ingénieurs, tout le monde est d'accord. Bon, donc tout peut arriver. Je dis, attendons le Grand Prix. Alors, si effectivement il prend une tôle dans le Grand Prix.
Regarde comme il nous vend les 4 derniers Grands Prix, là, pour faire de l'audience ici, là. En vrai, comme si je l'avais fait.
Non, mais on ne ferait pas ce débat si ce n'était pas Verstappen, en fait, qui est parti d'aussi loin. Il est quadruple champion du monde en titre. Quand il dit, avec des performances comme ça, oublier le titre, Marc Verstappen, tu le crois ou il fait un peu de la guerre psychologique aussi pour que les McLaren l'oublient ?
Oui, il fait de la communication, mais je pense que Verstappen a les moyens de renverser la situation, et d'autant plus que les deux pilotes McLaren ont montré à un moment ou à un autre des friabilités.
Mais là oui, enfin j'ai l'impression que Norris soit très fier.
Imagine aujourd'hui Verstappen gagne le Grand Prix, Piastri se loupe dans un virage, Norris fait un tout droit et notre ami Verstappen reprend une dizaine ou une quinzaine de points. La pression sera sur les deux pilotes McLaren sur les derniers Grands Prix. Ils n'ont ni l'un ni l'autre été champions du monde. Verstappen, les 4 fois. Il est le pilote dominant à la fois en conduite et mentalement, il a un ascendant sur les deux autres. Donc, si la situation, à un moment ou à un autre, lui donne un petit avantage en course, il va mettre au fond. Après, Philippe, après, c'est peu probable. Prénom, parce qu'on a quand même une McLaren qui est top niveau.
Il a pris de la confiance
quand même sur les dernières courses. Il est au top niveau. Moi, je dirais aujourd'hui, Norris a quand même un petit avantage parce qu'il a renversé la vapeur par rapport à Piastri.
Et puis, on l'a bien aidé chez McLaren. J'y reviens toujours. Ils ont fait ce qu'il fallait. Enfin, parce que là aussi, c'est une ambiguïté. Tout le monde se cache derrière le petit doigt. Oh non, on choisit pas avec le discours.
On va en parler dans quelques instants.
Ça, c'est un autre
effectivement.
Débat, mais... on a cassé Piastri. Moi, je le dis clairement, à partir du Grand Prix de Monza, en laissant. Bon, si on en parle tout à l'heure. On a cassé Piastri alors que c'était un tueur froid. C'est ce que je disais tout le temps. À 24 ans, il avait justement une impassibilité. Il n'avait pas commis d'erreur jusque-là. Alors que, comme tu l'évoquais, Norris était plus friable. On l'a vu notamment au Canada. Et puis, avouer ses faiblesses psychologiques également, ce que Piastri jamais n'avouait, il n'avait pas le regard. Piastri, il a le regard cassé, tu le regardes, c'est pas la peine d'aller plus loin, il est vide son regard. Il a compris que c'était pas pour lui, et quoi qu'en dise McLaren, on a fait le choix depuis longtemps, puisque Lando Norris c'est le bon petit garçon.
Lui, il a changé de regard.
Brown nous pipote, en fait.
On va en parler tout à l'heure de la déclaration de Zach Brown, le patron de McLaren.
Là, c'était pas ton copain, lui, par contre.
Mais moi, j'aime pas les menteurs.
Christophe, il est avec son pote. Christophe, il vient de passer une soirée au Stade de France, il est avec son pote Jean-Luc, il a oublié qu'on était en direct. Philippe, toi, tu vois, c'est Norris en forme en ce moment, peut-être qui te fait douter du retour de Verstappen.
Ouais, mais après, j'ai dit Verstappen, pour moi, c'est un grand champion, donc bien sûr qu'il y croit encore. Après, ça va être compliqué s'il doit récupérer 10 points par Grand Prix. Il faut une réussite incroyable, et puis surtout, il faut que les autres, ils cassent ou ils sortent. Non?
Oui, mais entièrement d'accord avec ça. C'est ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que on ne peut pas écarter. Lui, je pense, ne fera pas d'erreur, comme d'habitude. Et les autres le savent. Lui ne fera pas d'erreur et il sera là. S'il y a un moyen d'être là, il sera là.
Oui, mais donc ça voudrait dire qu'il faut qu'il gagne les 4 Grands Prix pour aller chercher le maximum de points.
Alors,
et
si
que
l'autre
derrière,
est deuxième,
ça finit même pas deuxième. Oui, mais... Il faudrait que Lando Norris ne finisse même pas deuxième. Et même dans ces
situations. Non, mais c'est vrai. Alors, on a l'impression que McLaren va mieux. Par rapport à la séquence où Verstappen a été très performant dernièrement, où les McLaren, on avait l'impression, avait la tête dans la.
Il faudrait qu'il gagne 100 points. Il gagne les 4 derniers les 4 derniers Grands Prix et que Norris, lui, il soit au-delà de la 3e place sur les 4 derniers.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la remontée qu'il a fait depuis Monza, depuis le nouveau fond plat. T'as vu ce qu'il a repris en 4 Grands Prix.
Mais
donc c'est possible.
Je te renvoie au cas de l'année dernière où tu me dis oui, mais il était parti 17e, il gagne le Grand Prix. Et que sa voiture, la Red Bull, était moins performante en fin de saison. Oui, mais il avait pris tellement d'avance.
Oui,
qu'il a pu conserver son titre. Et là, inversement, tu voudrais me dire que sa voiture, il récupère des points, mais il a perdu tellement de temps par rapport au début de saison.
Oui,
je vois pas comment
mais
c'est
il
possible.
A fait une telle remontée là depuis le break avec les éléments qu'ils ont apportés chez Red Bull, puisqu'ils continuent à développer la voiture jusqu'au bout. Là, c'est incompréhensible. Là, honnêtement, personne peut dire pourquoi elle marche pas là.
Jean-Luc, on n'a jamais entendu Verstappen dire ça. La voiture est imprévisible. C'est aussi pour ça que on peut avoir des doutes ce matin sur ses capacités. Alors, peut-être aussi pour ça que lui, pour la première fois, a un discours un peu défaitiste, comme ou pas.
Ou réaliste.
Jean-Luc.
Non, mais ça lui tombe dessus. C'est-à-dire que d'habitude, il démarre le week-end moyennasse, un peu le vendredi. Il travaille sur la voiture qui est pas au top. C'est pas une McLaren. Clairement, je dis toujours, tu le mettrais dans une McLaren. Là, tu verrais ce que peut faire la McLaren. Et c'est pas méchant pour les deux autres. Mais si, il serait un boulevard.
Ah, c'est pas méchant.
Il aurait 150 points d'avance. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Donc, ce que je dis, c'est que là, il se débat avec une monoplace qui est imprévisible. La preuve. Et qui, surtout, a un comportement très différent selon les circuits. Mais il est pas le seul. Hamilton éliminé en Q2, qui fait le 13e temps. Il sait pas pourquoi.
Jean-Luc, si Charles, tu dis qu'il aurait eu 150 points d'avance, ça veut dire que les deux autres, c'est des pipes.
Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ce sont des très bons pilotes, mais ça veut dire que Verstappen, c'est un cran au-dessus. Verstappen, c'est vraiment un des meilleurs pilotes que la Formule 1 ait jamais connu. Moi, je sais que sur certains grands prix, celui de l'an dernier au Brésil, moi, j'ai osé évoquer Ayrton Senna. C'est un pilote du calibre d'Ayrton Senna. Voilà, pour oser le dire.
Christophe n'est pas d'accord, non?
Je suis entièrement d'accord. Verstappen, c'est le top. Mais tant mieux qu'il ait une voiture moyennasse, finalement. Ça nous a
Ça le rend sympathique.
Les laisser un petit suspense quand même pendant des grands prix. Moi, j'y crois plus à ce suspense aujourd'hui. Je pense que c'est gagné parce que Norris a repris du poil de la bête, parce qu'effectivement, comme le disait Jean-Luc, il a été mis dans le bon sens par son équipe. Il est favorisé et aujourd'hui, il est sur un nuage. Oui. Et il sait que sa voiture, vraiment, s'il fait pas trop de conneries, devrait lui permettre. Il a combien, on a dit, 39 points d'avance. Il reste 4 grands prix. Hier, il gagne la course sprint tranquille. Piastri se plante tout seul. Verstappen n'y arrive pas. Non, franchement, moi, je pense que
malheureusement, il y a quand même le Grand Prix qui permet des renversements de situation pratiquement chaque année.
Il faudrait que Piastri fasse comme à la grande époque, c'est-à-dire qu'il joue contre son adversaire pour permettre à Verstappen.
À mon avis, il va pas l'aider. Là, honnêtement, si jamais en course, il y a discussion comme ça, si d'aventure il se retrouvait devant Norris, moi t'as vu, il se serre plus la main après les qualifs, il se regarde plus. Donc là, c'est un signe.
C'est un signe chez les McLaren, ça a toujours été ça de tout temps. Oui. Les deux pilotes McLaren en fin de saison,
on nous passait du beurre sur la tartine en nous disant non, c'est deux petits gars bien et tout. Stella encore des chevrotements dans la voix. Faut arrêter pour des beignets.
Il y a une donnée qu'on n'a pas évoquée, Jean-Luc, dans les capacités de Verstappen à faire la remontada, c'est que pendant toute la séquence où il a été très performant, c'était lui et les McLaren. Et désormais, il y a une autre équipe aussi qui est très performante, c'est Mercedes. On a vu Antonelli notamment qui arrive à se hisser devant. Russell l'a fait à Singapour. C'est-à-dire que Verstappen, il faut pas seulement qu'il soit meilleur que les McLaren aujourd'hui. Non, mais c'est une donnée peut-être qui le rend moins optimiste. Tu penses que ça fait partie du jeu d'échecs?
Il y a les deux manières. Comme tu l'as souligné effectivement, et on l'a vu hier en course. Et alors là, hommage à Kimi qui s'était un peu pris les pieds dans le tapis. Il était parti très fort jusqu'à Imola. Il l'a dit lui-même. Il avait un peu explosé en vol. Il avait eu des trous d'air. Il l'a dit, tout le monde l'a dit. Et là, il est en train de se rebecter. Et là, il nous a fait une qualif formidable. Même Russell comprend pas. Russell qui est sixième, il dit, je suis à l'arrêt, je comprends pas la voiture. Et le petit est devant. Il a été devant hier en sprint. Donc, mais ça peut prendre des points à McLaren aussi. C'est ça que je voulais te dire. Il y a deux manières de voir ça. C'est-à-dire que si, par exemple, Mercedes faisait le doublé, là, et Norris n'était lui que 3 ou 4e, c'est possible, hein. C'est possible vu la forme des Mercedes. Et du coup, Verstappen perdrait moins. C'est ça que je veux dire.
C'est-à-dire avec Jean-Luc, tout est toujours possible.
Mais attends. Jusqu'au bout,
mathématiques. Le cerveau, hein.
Moi, je me rappelle à la grande époque de Vettel, caracolé en tête avec 300 points d'avance. Non, mais c'est pas sûr.
Peut-être que Barrichello peut sauter Schumacher, finalement.
C'est le roi de l'audimat. Le roi de
l'audimat. Tiens, on va en parler. On a un petit peu touché ce sujet il y a quelques instants, mais de McLaren, la stratégie, c'est pas tout à fait clair, hein, en tout cas quand on est patron pour Zak Brown. On va remonter le temps, il y a quelques années, sur le même circuit, McLaren s'était bien planté dans son jeu d'équipe et avait été surpris par un troisième larron qui va peut-être inspirer Max Verstappen cet après-midi, départ du Grand Prix du Brésil à 18h. On est avec toute l'équipe et avec Jean-Luc Roy en renfort, quel renfort, pour être avec nous dans quelques instants. On vous attend au 32-16.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, Philippe Saint-André, Sarah Pitkowski et le soutien de Jean-Luc Roy, parce qu'on a un Grand Prix du Brésil qu'on attend avec grande impatience à 18h tout à l'heure. Tiens, j'ai plein de messages sur le WhatsApp au 06 12 424 424, notamment Jérôme qui nous dit Max est le meilleur. On en a également Roger qui nous dit Verstappen est le meilleur pilote de la F1 que l'on n'a jamais eu, et pourtant je suis fan de Schumacher. Des fans de Schumacher.
On peut être fan de plusieurs pilotes, surtout d'époques différentes. Là, c'est pas compliqué. Hein.
Bien sûr, comme il y avait des fans de Anctil et de Puydor, et il en faut tout. Celui qui domine, celui qui est dominé. C'est comme ça que ça marche. Dans un instant, hein, dans le vestiaire, on va parler de la relation entre entraîneur et entraîné. Je vous rappelle qu'on vous offre ce week-end des places pour France-Ukraine. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est jeudi prochain au Parc. Pour remporter vos places pour France-Ukraine, envoyez France au 7-32-16. France au 7-32-16. Mais d'abord, les GG remontent le temps. On va pas trop rajeunir non plus, Christophe Cessieux, j'en lui crois. Hein. Non, on va remonter.
Il y a de la marge. Hein.
18 ans.
Jackie Stewart, Jean-Emmanuel Fangio.
Non. Jim Clark.
Grande époque de la Formule 1, quoi, tu vois. C'est pas les années 2000-2010 que t'as connues. Là, l'époque héroïque de la Formule 1, c'était il y a bien longtemps. Ouais.
C'est bien de s'enfermer dans ce personnage de c'était mieux avant.
C'était beaucoup mieux avant.
Cette guerre de génération commence à me plaire. Attention, quand ça me plaît, je vais être très lourd derrière. Il y a 18 ans, toujours à Interlagos, si c'est passé ça. Give me right.
Raikkonen wins the Brazilian Grand Prix. His first victory here, the 15th of his career, and by no doubt the most important. Massa finishes in second place. Alonso is going to come in third, and the dream is over for Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen is world champion of 2007, unless Rosberg and Kubica collide us. Well, Raikkonen led the world championship after the first round.
Vous avez reconnu la voix de Jean-Luc Roux. On n'avait plus l'archive d'RMC. Voilà.
Mais c'est incroyable.
C'était
ça.
Le commentaire en anglais, effectivement, du succès de Kimi Raikkonen, sacré champion du monde de Formule 1 le 21 octobre 2007. C'était le dernier Grand Prix de la saison à l'époque au Brésil. Hein. Et le dernier titre pour Ferrari.
Et voilà.
Mais ce qui nous intéresse dans ce souvenir, et parce qu'il résonne aujourd'hui, on a Interlagos, les McLaren, en fait, sont coiffés par le Finlandais, puisque Raikkonen avait devancé d'un point expérimenté Alonso, qui était chez McLaren Mercedes, et un jeune rookie, Lewis Hamilton, dans l'une des fins de saison les plus serrées de l'histoire de la F1. McLaren n'avait pas choisi de leader, McLaren avait été puni. On en parle aujourd'hui, donc, parce que chez McLaren, c'est la même chose en ce moment. Zak Brown, le PDG de McLaren, a dit cette semaine, au propos de Piastri et Norris: nous avons deux garçons qui veulent devenir champions du monde, nous jouons l'attaque, pas la défense. Je préfère que nos deux pilotes terminent à égalité et qu'un autre nous batte d'un point plutôt que de dire à l'un d'eux, tu es à un point de ton coéquipier, m'en a tiré pile ou face cette année, ce n'est pas pour toi. Si Verstappen gagne, je lui serre la main, je lui dis bravo, a dit le patron de McLaren, cette semaine. Le souvenir de 2007, il répondait à ça, en fait, hein, parce qu'il en est question, au Brésil. McLaren s'était planté à l'époque. McLaren est en train de reproduire la même chose, Jean-Luc, on peut comparer?
Alors non, la situation était totalement différente dans la mesure où on avait le jeune loup Lewis Hamilton qui venait d'intégrer la Formule 1 et McLaren. Je rappelle que c'est Ron Dennis, faut quand même lui rendre hommage, qui a après Bruce McLaren bien sûr, mais qui a amené cette équipe de Formule 1 à ce niveau aussi élevé dans les années 80 avec bien sûr Prost, Senna, etc. Donc il avait choisi Lewis Hamilton qui était venu le voir, il l'avait surveillé depuis l'âge de 10 ans. Donc c'était vraiment le produit du sérail, il l'avait élevé comme un petit poulet, il en avait fait effectivement un champion, il l'avait amené en Formule 1. Et il y avait Fernando Alonso qui lui était sur ses deux titres de champion
chez
du monde,
Renault, ouais,
venait de chez Renault, et il a arrivé en se disant, bon, bah, je vais décrocher mon troisième titre. Et puis, Fernando a compris aussi au cours de la saison, eh ben, que c'était pas forcément lui le préféré au sein de l'équipe, que c'était plutôt le jeune poulet de grain élevé dans le sérail, élevé dans le poulailler.
Hamilton.
Et donc, Fernando, d'ailleurs.
Britannique de surcroît.
Britannique de, bah, il faut
si
toujours le rappeler.
Une écurie
anglaise,
c'est pas mal.
Il faut toujours le rappeler. Et donc, effectivement, c'est Alonso, quelque part, en a pris ombrage, et même plus que ça, puisqu'il a claqué la porte, comme vous le savez, après, il est parti immédiatement, alors qu'il avait un contrat de plusieurs années. Situation totalement différente. Là, oui, on a l'ancien Norris, comme on l'a évoqué, qui a mangé du pain noir avec McLaren quand ça ne marchait pas, parce que c'est quand même récent, hein, le rebondissement de McLaren, pour des raisons que personne n'arrive à comprendre. C'est ça qui est terrible, c'est que l'écart en Formule 1, maintenant, est tellement réduit. Comme je le dis toujours, là, actuellement, entre le meilleur temps, le poleman, et le 20e, souvent, il y a une seconde 8. Une seconde 8, c'est l'écart qui a parfois séparé, sur certains circuits, Ayrton Senna d'Alain Prost, les deux dans la McLaren. L'un était premier, l'autre était deuxième. C'est vous dire que ça s'est tellement réduit que là, à 2 dixièmes, t'es largué. Voilà, à 2 dixièmes, tu es largué. Et encore une fois, j'évoquais tout à l'heure, là, sur ce Grand Prix du Brésil, les qualifs, Charles a failli ne pas passer la Q1, Charles Leclerc, avec la Ferrari, il était comme ça à la ramasse.
Donc ça veut dire aussi que c'est tellement serré maintenant que c'est encore plus difficile de déterminer qui est devant l'autre. Marc, Zak Brown, quand il dit on ne choisit pas, on préfère rester fidèle à notre ADN, et si Verstappen gagne, c'est comme ça. Bon ou mauvais patron, Zak Brown, le patron de
McLaren? Pour moi, bon patron. Bon patron, il a reconstruit une écurie mythique. Et à l'image de ce qu'est aussi Williams, qui reviendra à mon avis au premier plan assez vite, c'est des équipes de racers.
C'est-à-dire des grands pilotes.
C'est des équipes de course, c'est pas des équipes Ferrari. Pourquoi il y a des difficultés? Parce que c'est une équipe entre guillemets politique. Et quand on est chez McLaren ou quand on est chez Williams, on est dans une équipe de course. Ils font la course en IndyCar, ils font la course en Formule 1, ils vont refaire la course aux 24 heures du Mans. C'est une équipe de racers.
Ça t'aurait déçu du coup qu'on dise Norris est le leader, parce qu'en fait c'est pas...
Ah mais dans la communication ils mettent les deux à égalité, mais peut-être que dans l'arrière-boutique McLaren on est sur un autre schéma. Vous savez, moi, historiquement, quand on regarde un peu l'histoire de ces équipes-là, il y a toujours eu des manipulations ou des embrouilles, mais c'est quand même des équipes de vrais pilotes, de vrais coureurs. Quand on remonte chez Williams à l'époque, Prost, moi j'ai un grand souvenir de Damon Hill qui avait été mis
mis en gâteau à apéritif d'Ayrton Senna chez Williams et qui est quand même devenu champion du monde derrière. Donc il y a toute une histoire et c'est la même chose chez McLaren. Prost Senna, c'est quand même le sommet du sommet de la Formule 1. Ils ont été les deux champions du monde, mais ça a été des combats titanesques. Et McLaren et Ron Dennis entretenaient tout ça. Donc c'est des vraies équipes de course.
Le problème, c'est que Marc Madiot, il fait le racer sur l'autoroute et du coup, il est obligé de...
Il a récupéré tous ses points, donc c'est à nouveau un racer. Non mais Philippe, manager, il a raison le patron de ne pas choisir.
Bon patron et puis l'éthique sportive. Voilà, je trouve que c'est magnifique.
Mais même s'il y a ce souvenir qu'on a entendu là de la fois où ils se sont fait avoir.
Mais tu veux quoi,
Jean-Ton?
Mais là, Jean-Ton en 1989 sur le Dakar, lorsqu'il y a Yves Vatanen et qui d'un seul coup décide de figer la course et de dire il y a des consignes de course et du coup ça avait été terrible. Et Yves était en tête et à 200 mètres de l'arrivée, il a freiné.
Un gros coup de frein.
Il a fumé sa clope, il a laissé Vatanen passer. C'était la négation
du sport automobile.
C'était vraiment ça.
Ah, Jackie est un copain. C'était la pièce de monnaie. Non, mais sérieusement. Pièce de monnaie, toc, c'est toi.
C'est pas toi.
Mais c'est catastrophique.
Donc là, l'éthique sportive, moi je trouve que c'est magnifique.
Même si le titre peut leur échapper,
mais leur titre pilote. Va leur échapper.
Titre pilote.
Attendez quoi.
Ils ont beaucoup de points d'avance.
Au dernier moment, ils feront ce qu'il faut.
Ah oui, je pense que déjà
ils l'ont déjà fait a priori.
S'il faut faire une décision au dernier Grand Prix, ils le prendront.
Et non. Ce sera plus tôt, tu verras, parce que encore une fois, Piastri, je serais très surpris qu'il réussisse là un beau Grand Prix. On va parler de celui-là déjà. Donc Norris a évidemment toutes les chances d'être plus performant.
Là, il a 9 points d'avance,
encore se creuser. Et là, logiquement, on va dire bon, bah écoutez,
c'est voilà. L'évidence en fait.
Bien sûr,
mais ça
va devenir évident.
Mais t'as envie d'entendre ce message, voilà. Non, mais faire un message différent. Sincèrement, ça aurait été catastrophique pour la Formule 1.
Voilà,
le message, c'est bien
préservé.
Et là, pour une fois, je suis d'accord avec Marc.
On va y arriver. Voilà.
Un bon patron. Et je ne fais pas le reste. J'entends dans le micro l'OM. Comme ça. Non, on parle de Formule 1, là.
Allez, l'OM, non. Si jamais, par exemple, Piastri gagne aujourd'hui, que Norris fait 0, ils seront bien embêtés quand même chez
ils
McLaren.
Seront très embêtés.
C'est ça la question. Bah, c'est-à-dire que ce discours-là, il va peut-être jusqu'à un certain point. Moi j'adore, hein, je suis un romantique aussi. J'ai envie qu'ils se battent dans la même écurie jusqu'au bout. Mais là, la différence, c'est que t'as un troisième type derrière qui peut t'embêter. C'est pas comme quand t'avais deux Ferrari. C'est pas les deux Mercedes d'Hamilton et Rosberg il y a quelques années. Là, on est dans une situation qui peut les humilier un peu, hein, si jamais ils sont pas champions.
Encore une fois, c'est la casse moteur, évidemment imprévisible, de Norris en Hollande qui a perturbé tous les plans. Parce que jusque-là, ça se passait comme il fallait, Norris allait prendre la main, etc. Et là, paf, il a pas marqué du tout. Et à ce moment-là, à l'inverse, eh bien, Piastri gagne. Donc là, ils se sont dit, merde, comment on va faire pour remettre les choses dans l'ordre, en fait? Et donc, comment on les a remis? Ben, encore une fois, on a fait comprendre, ou on a dit peut-être tout à fait en interne à Piastri, ben, écoute, on t'aime beaucoup, t'es un jeune garçon très performant, tu seras sûrement champion du monde, mais pas cette année.
Tiens, il faut qu'on dise un dernier mot, Jean-Luc, quand même, sur Isaac Hadjar, qui va partir cinquième, aujourd'hui sur sa Racing Bulls. Lui qui veut le baquet de Red Bull à côté de Verstappen, c'est important.
Il a écouté ce qu'a dit Jean-Luc il y a quelques semaines.
C'était pas du tout. Tu vois que là aussi, je suis désolé, mais j'avais raison. Je disais simplement, il réclamait le baquet. Non, c'est pas ça. Il réclamait le baquet. C'est pas comme ça qu'on fait. On se tait, on travaille, on a des résultats, et voilà.
Il joue le baquet magnifique. Aujourd'hui, peut-être.
Alors, écoute, tu sais, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Hein. Regarde, parce que la Racing Bull de la vie de tout le monde, et y compris des pilotes, et je vais pas dire parce que c'est
meilleur,
on va encore le prendre à l'envers et moins difficile à exploiter, voilà, on va le dire comme ça, que la Red Bull. Donc est-ce que c'est un cadeau d'aller chez Red Bull à côté de Verstappen? C'est pas
certain. Jean-Luc, cas de figure,
c'est pas certain.
Verstappen est dans les rétroviseurs d'Hadjar aujourd'hui, il le laisse passer tranquille parce qu'il veut être son coéquipier l'année prochaine?
Non, je pense pas. Et en plus, je pense pas que ce soit dans sa mentalité. Non, au contraire, on portera à son crédit le fait de s'être battu. Non, je ne pense pas.
Il y a plein d'histoires, il y a des milliers d'histoires. Et quand il y a Jean-Luc Roy, il y a même des millions d'histoires avant un Grand Prix de Formule 1.
Oui, parce qu'on trouve toujours des références
Brésil,
qui effectivement
Effectivement, départ à 18h, le titre se joue peut-être. Les baquets aussi pour la saison prochaine.
Il reste plus que cela, hein, puisque ça y est, on a appris que Colapinto, oh la surprise, était reconduit chez Alpine.
Oh, bah ça alors. Parce que c'est un superbe pilote argentin. Gasly partira 9e hein, sur sa Alpine. Ça, il faut signaler aussi.
Il en a rangé une dans le rail. Il n'a pas été le seul.
Elle était bien rangée.
Elle était bien rangée.
De, cocktail, je trouve, comme la Pinto, non? Ça vous fait penser à un cocktail.
Ah,
ça,
tu penses aux vacances, toi, déjà.
Non, mais... je te préparerai un Quirino, si tu veux, tout à l'heure. Allez, les amis, 18h Grand Prix du Brésil. Et on va continuer de parler de France-Afrique du Sud également dans la dernière heure.
Ah bon, grande gueule
du sport, la défaite. Merci, Jean-Luc. Par contre, tu reviens toute l'après-midi. Christophe a plein de choses à te raconter. À tout de suite, les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.